Et ce soir sur France Inter, vous passez du temps avec Paul Auster. Vous écoutez France Inter, il est 18h. Bonsoir Fabienne Sintès.
Bonsoir Marie et Marine, à demain les filles. On est parti, le 18-20, France Inter est ouvert, ravi de vous accompagner pour 2 heures. En ce 1er mai, soyez les bienvenus sur la planète Tessa Banlieue. Bonsoir Kevin Dufresne.
Bonsoir.
À la une du 18-20 et du premier journal de la soirée, des cortèges partout en France.
Bien moins fournis que l'an dernier, la mobilisation contre la réforme des retraites, des manifestations qui se sont globalement déroulées dans le calme, mais pas pour Raphaël Glucksmann à Saint-Etienne, la tête de liste des socialistes pour les européennes, chassée du cortège, il met en cause les insoumis qui s'en défendent.
Et les autres titres, Kevin ?
Plus de débris à Gaza qu'en Ukraine. La phrase choc d'un responsable de l'ONU ce soir qui alerte sur les potentiels obus cachés sous les décombres. Nous serons en Pologne qui libéralise la pilule du lendemain. Le maire du Barcarès en détention provisoire, mise en examen dans ce qui ressemble à une grosse affaire de corruption. Et puis dans Un jour dans le monde, Fabienne, page spéciale consacrée à Paul Auster, le grand écrivain américain est mort aujourd'hui des suite d'un cancer chez lui à New York. Il avait 77 ans.
Et oui, et c'est l'Amérique de Paul Auster qu'on va essayer de visiter dans Un jour dans le monde, notamment avec François Bunel qui était son ami. Comment il la voyait, son Amérique, lui qui était sans doute plus new-yorkais qu'américain, mais qui n'était pas étranger, évidemment, à son pays, loin de là. Et nous sommes aussi avec Céline Curiol qui a écrit avec lui. Le reportage ce soir est en Colombie, en train de devenir le premier pays producteur de pétrole qui n'exporte plus pour se tourner vers les renouvelables. Kevin, vous nous expliquerez pourquoi le patron de l'opposition au Canada a été viré de la Chambre. Franck Madvon est au Proche-Orient. Pourquoi la colère contre les États-Unis monte dans les pays arabes? Et puis Corinne Pélissier a vu Ryan Gosling en Call Sivers. En deuxième heure, dans le téléphone sonne, nous allons de Géo Trouve Tout jusqu'à Elon Musk, du fil à couper le beurre au moteur électrique, de l'épluche patate au prix Nobel. C'est bien de concours l'épine d'invention et d'innovation dont nous allons parler.
France Inter.
200 000 manifestants dans toute la France.
Voilà ce que revendique ce soir la CGT à l'issue de cette journée internationale des travailleurs et travailleuses. C'est 10 fois moins que l'année dernière. Il faut dire que le 1er mai 2023 avait lieu en plein conflit social sur la réforme des retraites. D'après les préfectures, il y avait 3 000 manifestants à Toulouse, Marseille ou Strasbourg, 1 000 personnes à Pau, 800 à Cherbourg, quelques tensions à Nantes avec des vitrines brisées, à Paris, quelques affrontements entre certains manifestants et les forces de l'ordre. 29 interpellations d'après la préfecture de police ce soir. Des voitures brûlées aussi le long du parcours. Et dans le cortège pour France Inter, Claire Chaudière.
Les JO !
À peine le cortège s'est-il élancé que les slogans en lien avec les Jeux Olympiques résonnent.
Hidalgo, si tu tiens à tes JO, c'est 1900 euros.
Une grande banderole rouge revendicative de 10 mètres de large, Paris 2024 est dépliée, celle des agents publics parisiens. Et chaque secteur y va de sa revendication.
Il y a beaucoup de sans-papiers qu'on souhaiterait qu'ils soient régularisés, donc voilà. C'est pas de JO, pas de papier. S'il n'y a pas de papier, il n'y a pas de JO.
Licenciement dans la fonction publique, coûts budgétaires dans l'éducation et nouvelles réformes de l'assurance chômage font partie des sujets de crispation qui reviennent encore et encore.
Je disais juste que déjà c'était scandaleux que le chômeur qui a perdu son emploi soit en plus privé d'allocation.
Sandra, assistante sociale, et Mélanie, assistante maternelle, n'ont pas digéré les dernières annonces.
S'il a 55 ans pour retrouver du boulot, ça va pas aller quoi.
Et ce qui me met le plus en colère, c'est que les assistés, ce sont tous nos élus, tous les politiciens qui vivent sur le compte du contribuable.
Hervé, lui, est contrôleur de gestion, indigné de voir le gouvernement empêtré dans les déficits dont il a peur de faire les frais.
Tout récemment, on s'est rendu compte que on s'était trompé dans la construction budgétaire, donc il fallait trouver 10 à 20 milliards.
Comme Jeanne, venue avec ses deux filles de 3 et 8 ans.
Les coupes budgétaires et la baisse de moyens pour les services publics.
Sur les feux rouges, de faux billets, 80 milliards d'euros ont été collés, mais déjà l'atmosphère se tend, pétards, vitrines brisées, CRS et bousculades.
Je crains qu'ils n'arrivent pas tous à nager.
Karine, venue comme elle dit faire la fête du travail, rentrera chez elle plutôt que prévu.
Voilà, reportage de Claire Chaudière. Si ce 1er mai a été moins suivi dans les cortèges, il a tout de même été très politique en pleine campagne pour les élections européennes. Du côté de l'extrême droite, le Rassemblement National n'a pas défilé, mais présenté sa liste complète pour le 9 juin. Marine Le Pen a pris la parole, vous l'entendrez, dans le journal de 19h. Quant à gauche, le torchon brûle à nouveau depuis ce matin entre les socialistes et la France insoumise. Raphaël Glucksmann n'a pas participé comme prévu à la manifestation manifestation de Saint-Étienne, prise à partie par une cinquantaine de personnes. Certains lui ont jeté de la peinture au cri de social traître, lui reprochant notamment ses positions sur la Palestine. Il a alors assuré avoir vu des drapeaux LFI, mais les jeunes communistes de la Loire ont revendiqué cette action, condamné par Jean-Luc Mélenchon, qui demande maintenant à Raphaël Glucksmann de s'excuser pour avoir mis en cause les militants insoumis. Mais selon la tête de liste PS Place Publique, on s'en prend à lui parce qu'il fait surtout la course en tête des sondages par rapport aux autres listes de gauche pour les européennes.
C'est aussi le résultat de campagnes de calomnie orchestrées sur les réseaux sociaux par certains partis politiques et certains dirigeants politiques. Nous sommes une digue face à la brutalisation du débat. On ne va pas être en train de dévier parce que des groupuscules violents sont ultra frustrés par la dynamique qu'on est en train de créer. Au contraire, finalement, leur marginalisation progressive, ça sera aussi un acquis de notre campagne. C'est mon passé, justement, qui fait de moi un démocrate de combat et qui fait que je ne baisserai jamais la tête, ni face à l'extrême droite, ni face aux puissances d'argent, ni face à des groupuscules qui font de la violence politique le cœur de leur rapport au monde.
Un propos recueilli par Mathilde Imberti. Rien ne justifie que Raphaël Glucksmann ait été exclu d'une mobilisation, réagit le secrétaire national du Parti communiste Fabien Roussel. Et au sujet des élections européennes, vous n'avez plus que quelques heures, jusqu'à minuit, pour vous inscrire en ligne sur les listes électorales et voter au plus près de chez vous le 9 juin. 1er mai et politiques qui se sont mêlés aussi en Turquie aujourd'hui. La police a arrêté plus de 200 manifestants qui tentaient d'accéder à la place Taksim, lieu historique des manifestations à Istanbul des années 70 jusqu'en 2013 et les grandes manifestations anti-Erdogan. Chaque année, l'opposition tente de s'y rendre, mais le secteur est bouclé à des kilomètres à la ronde. France Inter à Istanbul, Marie-Pierre Véraud.
Le cœur d'Istanbul, vide et silencieux comme on ne l'a jamais connu. Plus de 40 000 policiers et forces anti-émeutes ont bouclé la place Taksim. Ils ont même fermé la mer, s'exclame le leader de l'opposition.
Deux heures et demie.
Ce retraité turc venu de France a marché 2h30 pour rejoindre l'un des points de rassemblement devant la métropole d'Istanbul.
Attention, la police, il y en a beaucoup.
L'ambiance est festive au début du rassemblement, slogans et danses. Puis le parti des travailleurs tente de forcer un barrage policier en vain. Gaz poivre, balles en caoutchouc, plus de 200 arrestations. Le parti d'opposition, le CHP, a lui préféré ranger ses drapeaux et se disperser.
C'est terminé.
Vous n'allez pas à Taksim ?
Oui, parce que la police bloquée, entrée et sortir.
L'opposition n'a pas réussi son pari. L'un de ses représentants, Murat Sönmez, estime malgré tout que le gouvernement turc a dévoilé ses failles.
Le pouvoir a montré ses muscles, mais en fermant tous les accès, il montre aussi qu'il a peur de la démocratie. Il sait que s'il laisse un peu de liberté au peuple et de justice, cela se retournera contre lui.
Un homme qui a vécu les 1er mai des années 80 intervient. C'est un pouvoir religieux et fasciste, lance-t-il. Istanbul, Marie-Pierre Véraud, France Inter.
Et la suite, Kevin, c'est le Hamas qui promet ce soir une réponse rapide.
À propos de l'offre de trêve formulée par Israël, le mouvement islamiste va donner une réponse claire dans très peu de temps, fermez les guillemets. Voilà ce que dit l'un des membres de son bureau politique ce soir à l'agence France Presse, rappelant que le Hamas demande un cessez-le-feu permanent et le retrait total de l'armée israélienne de la bande de Gaza, ce qui ne semble pas être dans le projet d'accord négocié en Égypte. Aujourd'hui aussi, le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a redit à Benjamin Netanyahou l'opposition de Washington à une offensive à Rafah dans le sud de Gaza. L'enclave palestinienne, en grande partie en ruine après plus de 6 mois de bombardements israéliens depuis les attaques terroristes du Hamas le 7 octobre. Et ce soir, lors d'un point presse à Genève, l'ONU affirme qu'il y a aujourd'hui plus de débris à déblayer à Gaza qu'en Ukraine, des débris potentiellement mortels pour les civils. Jérémy Lanche.
Restes de bombes aériennes, d'obus d'artillerie, de mortiers côté israélien, débris de roquettes et engins explosifs improvisés du côté du Hamas. Personne ne sait exactement ce que contiennent les gravats qui recouvrent le sol de Gaza aujourd'hui. Charles Mungo Birch, le responsable du service antimine de l'ONU en Palestine, c'est juste qu'il y en a beaucoup.
On estime qu'il y a 37 millions de tonnes de gravats à Gaza. Pour vous donner une idée, c'est plus qu'en Ukraine. Sauf que le front ukrainien fait 1000 km de long. À Gaza, c'est 40 km. Avec 100 camions, il faudrait 14 ans pour tout débarrasser.
Et ça, c'est sans compter le temps qu'il faudra pour neutraliser les restes explosifs dans les gravats. Problème, il en tombe chaque jour sur Gaza, mais aucun déminage ne peut être entrepris pour le moment.
On n'a pas d'équipement pour déminer, parce que c'est compliqué de le faire rentrer à Gaza. C'est considéré comme du matériel à double usage. Il pourrait être employé à des fins militaires.
Les explosifs ne sont pas le seul danger. Il y aurait plus de 800 000 tonnes d'amiante dans les décombres. C'est plus que ce que la France extrait chaque année des bâtiments qu'elle démolit. À Genève, Jérémy Lange, RFI pour France Inter.
Et partons maintenant en Pologne, avec un effet concret du récent changement de gouvernement. 4 mois et demi après le retour au pouvoir de Donald Tusk et la victoire de sa coalition face à la droite nationaliste, les droits des femmes progressent à nouveau. Depuis ce matin, la pilule du lendemain est disponible en pharmacie, sans ordonnance à partir de 15 ans, partout en Pologne. Un pas important dans ce pays encore très conservateur sur ces questions. À Varsovie, le reportage de Martin Chabal.
Le changement de règle est passé un peu inaperçu en Pologne. Daria a 16 ans et est soulagée par cette nouvelle.
Vous m'apprenez qu'elle est disponible à partir d'aujourd'hui. C'est un grand pas en avant pour les droits des femmes. C'est formidable.
Elle peut maintenant demander une pilule du lendemain sans avoir à prendre rendez-vous chez le médecin avant. Elle devra simplement répondre à un questionnaire pédagogique posé en pharmacie.
Si j'en ai besoin, je l'utiliserai. Parce qu'à mon âge, si je ne veux pas être enceinte, ça me sera utile.
Mais dans les pharmacies, la nouvelle règle est encore floue. On ne sait pas encore quelles questions poser, à qui refuser l'ordonnance, à qui l'autoriser. Beata ne se sent pas de faire ses prescriptions.
Honnêtement, je ne sais pas ce que je vais faire. Je ne me considère pas comme un médecin, donc je ne suis pas prête à prescrire un tel médicament.
D'autres pharmacies attendent encore le feu vert de l'Ordre national des pharmaciens. Mais il semble assez fermé sur la question. Il a d'ailleurs déjà annoncé s'opposer à la délivrance de pilules du lendemain aux mineurs non accompagnés par un représentant légal. Martin Chabal, à Varsovie. Pour France Inter.
Prise au piège des inondations, au moins une centaine de touristes sont toujours bloqués ce soir au Kenya dans une réserve du sud-ouest du pays. Leurs campements sont pour le moment inaccessibles, indiquent les services de secours qui ont réussi à évacuer 60 personnes. Mais par voie aérienne, les crues et les glissements de terrain au Kenya ont fait près de 200 morts en un mois. En France, 19 départements sont placés ce soir en alerte orange aux orages par Météo France. Ça concerne l'Île-de-France et des parties de la Normandie, des Hauts-de-France ou de la Bourgogne. On y revient avec Élodie Calac dans la météo juste après ce journal.
La maire d'hiver droite du Barcarès, près de Perpignan, est ce soir en détention provisoire.
Alain Ferrand, 64 ans. Depuis près de 30 ans, il partage son siège de maire par intermittence avec sa femme. Et bien depuis hier, il est mis en examen, tenez-vous bien, pour corruption, favoritisme, prise illégale d'intérêt, participation à une association de malfaiteurs et blanchiment. Bonsoir Emmanuel Leclerc.
Bonsoir.
La liste est impressionnante, c'est rare concernant un élu. Qu'est-ce qui lui est reproché exactement ?
Eh bien, cela porte sur le seul village de Noël installé chaque année sur la commune. Et celui de Barcarès est l'un des plus connus dans les Pyrénées-Orientales avec ses 120 chalets en bois. Et selon la plainte déposée initialement par l'association Anticor, les soupçons porteraient sur des appels d'offres truqués qui porteraient sur près de 10 millions d'euros lancés chaque année, quelques jours seulement avant le résultat. Et le gagnant était toujours le même, un couple d'amis du maire et de son épouse. Leur société a comme filiale une entreprise qui fabrique donc des petits chalets pour des marchés de Noël, mais aussi de très beaux chalets en montagne. Et les enquêteurs s'intéressent d'ailleurs à la construction d'un chalet luxueux, justement, sur une parcelle qui serait en partie détenue par une SCI de monsieur le maire de Barcarès. Son avocat a dénoncé chez nos confrères de France 3 Occitanie un maire que l'on cherche à abattre où tout serait biseauté et joué d'avance. Mais ce qui n'a pas arrangé les affaires d'Alain Ferrand, c'est qu'il a été arrêté dimanche à sa sortie de l'avion qui le ramenait du Congo-Brazzaville, et les gendarmes et la PJ de Montpellier ont trouvé dans ses bagages près de 40 000 euros en cash, ce qui correspond à sa mise en examen pour blanchiment et transfert non déclaré de sommes provenant de l'étranger.
Les explications d'Emmanuel Leclerc, service police-justice de France Inter. Et deux autres personnes sont mises en examen dans cette affaire pour corruption, dont le patron de cette société que vous évoquez qui fabrique ces chalets en bois.
À partir d'aujourd'hui, Kevin, des bleuets sur toutes les vestes.
Et ça jusqu'au 8 mai prochain. Une demande express d'Emmanuel Macron à ses ministres, notamment pour faire mieux connaître le bleuet de France. Une œuvre qui ne fonctionne que grâce à des dons privée et se donne pour mission, je cite, « d'aider ceux qui restent ». Les militaires blessés au combat, les pupilles de la nation ou encore les victimes du terrorisme, 25 000 personnes sont ainsi aidées financièrement chaque année. Bonsoir Sébastien Sabiron.
Bonsoir.
Et notamment des athlètes en situation de handicap et certains préparent d'ailleurs les Jeux paralympiques de Paris.
C'est le cas de Cyril Chaboun, 38 ans, ex-membre des forces spéciales de l'armée de l'air. En 2016, lors de la bataille de Mossoul en Irak, un drone piégé par Daesh explose. 10 jours de coma et un mois de réanimation plus tard, il est amputé des deux jambes.
Quand je suis sorti de réa à l'hosto, voilà, que j'ai pris conscience de mon état, j'ai eu un gros coup au moral. Étant dans l'élite et faisant un métier qui était ma passion et qui passait avant ma famille même, on se pose pas mal de questions.
Alors dès sa sortie de l'hôpital, Cyril intègre l'équipe de France de volleyball assis, nouvelle discipline paralympique et pour lui une nécessaire reconstruction par le sport.
Le sport crée des endorphines qui font que dans le cerveau et dans le corps, on se sent mieux, quoi. On se dépense à 10 000%, on pense plus au mal-être qu'on a sur le moment et se dire que ben, la vie, elle n'est pas finie, tout est possible encore.
Le Bleuet de France l'accompagne financièrement, tout comme Rémi Boulet, ancien commando parachutiste qui a défendu les intérêts de la France en Afghanistan, au Niger, au Mali notamment. Désormais paraplégique, il représentera la France aux Paralympiques en kayak.
Une année comme les Jeux de Paris 2024, ça coûte environ 130 000 euros, une saison complète. Donc ça m'a permis de pouvoir faire plus de stages, tout mettre en œuvre pour aller chercher la médaille d'or aux Jeux de Paris. Ouais.
Créé après la guerre de 14, le Bleuet souffre aujourd'hui d'un déficit d'image, d'où cette nécessité de le faire connaître. Pierre-Emmanuel de la Forcade, son directeur général.
Trop longtemps, le Bleuet de France a été associé à la poussière des tranchées de la Grande Guerre, alors que le Bleuet de France aujourd'hui, c'est 5000 blessés des armées, 4500 victimes du terrorisme. Et redynamiser le Bleuet de France permet de renforcer notre accompagnement auprès de nos victimes bénéficiaires.
Une œuvre qui soutient aussi les pupilles de la nation, vous le disiez, Kevin, en finançant par exemple leurs études ou leur permis de conduire.
Sébastien Sabiron. Et puis un immense mur jaune sur la route du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions ce soir. Demi-finale aller, c'est du football bien sûr. Le Borussia Dortmund reçoit le PSG à 21h dans son bouillonnant stade du Signal Iduna Park.
Kevin Dufraîche, merci. Kevin, à tout à l'heure dans Un jour dans le monde avec Sous les radars. On jette d'abord un œil sur le ciel.
La météo, avec le baume Hydra Défense Aquiléine des laboratoires Acepta. Le soin hydratant 24 heures des pieds secs en pharmacie et parapharmacie. Aquiléine, nous, c'est le pied.
Élodie Calac, bonsoir. Attention aux orages.
Oui, alors ils commencent à se former entre le Doubs, la Côte d'Or et Lyon. Ce soir et jusqu'en milieu de nuit, vigilance orange de la Bourgogne vers l'Île-de-France, les Hauts-de-France et les Ardennes. Les orages peuvent être violents avec des pluies intenses, de la grêle et de fortes rafales de vent. Attention aussi aux pluies qui persistent ce soir et cette nuit, particulièrement importantes du nord du centre-Val de Loire vers la Normandie, où une vigilance orange est en cours. Et on a des cours d'eau qui sont sous surveillance, notamment le bassin de la Touque dans le Calvados.
Et demain, encore pluvieux sur les deux tiers du pays.
Oui. Surtout du massif central vers Rhône-Alpes et la Franche-Comté le matin, puis sur le flanc est l'après-midi. Il neigera sur les massifs du sud. Le vent atteindra 70 km à l'heure en Méditerranée. De la Bretagne vers l'Aquitaine et le Roussillon, quelques averses encore, mais aussi des éclaircies pour l'après-midi. Et puis des températures en baisse partout. Alors souvent 12 à 17 degrés l'après-midi, hein, ça, c'est frais pour la saison, mais jusqu'à 19 en Alsace et en Corse.
Merci beaucoup, Élodie Calac de Météo France. Vous reviendrez tout à l'heure après le journal de 19h dans Un jour dans le monde ce soir. François Bunel est là avec Céline Curiel aussi pour nous parler de l'Amérique de Paul Auster. Nous sommes également en Colombie pour le reportage au Brésil qui rend un hommage à Ayrton Senna dans les pays arabes en colère contre l'Amérique avec Franck Madvon et aussi avec l'homme qui tombe à pic et ses vraies cascades.
Bien sûr, on aurait pu faire tout ça en images de synthèse, ça aurait beaucoup simplifié les choses, mais j'avais le sentiment pour ce film qu'il ne fallait pas procéder comme ça. Quand vous êtes cascadeur, ce que vous voulez, c'est en mettre plein la vue au spectateur.
Allez, avec Corinne Pellissier qui nous racontera ça tout à l'heure. Au téléphone sonne, nous allons ce soir à partir de 19h20 de Géo Trouve-Tout jusqu'au prix Nobel. On parle d'invention et d'innovation. C'est le concours Lépine qui ouvre en même temps que la Foire de Paris aujourd'hui qui nous a donné cette idée. Savez-vous que 15 556 brevets ont été déposés à l'INPI en 2023. C'est beaucoup, alors je ne vous le cache pas, il y a de moins en moins d'inventeurs d'épluches légumes et de plus en plus de projets qui sont très techniques liés à l'innovation. Mais nous sommes un pays dynamique, une invention, c'est une bonne idée bien sûr, mais surtout au bon moment, personne n'y avait simplement pensé avant vous. Le dernier gagnant du concours Lépine, concours du président, c'est le plus prestigieux, a inventé par exemple des freins pour un fauteuil roulant. Alors peut-être que vous êtes cet ingénieur qui invente, qui propose tout le temps, appelez-nous. On vous expliquera aussi comment les projets se déposent et pourquoi c'est précieux. Et si vous avez une idée, deux questions, c'est au 01 45 24 7000.
L'humour d'Inter, c'est Charline Vanhoenacker.
Bruno Le Maire a annoncé que le bulletin de paix serait simplifié pour passer de 55 lignes à 15 lignes.
Ah, c'est dommage qu'il ne fasse pas la même chose avec ses bouquins.
Daniel Morin.
Mesdames, Messieurs, le problème technique qui est à présent résolu, je vous demande encore un peu de patience. Un mulot s'est introduit dans le train et conformément à nos engagements avec l'association Amour du Vivant, nous devons attendre qu'il quitte de lui-même notre train.
L'humour d'Inter, c'est aussi en vidéo tous les jours sur le YouTube de France Inter.
Allez, le monde est vaste et on n'a pas toute la journée, allons-y.
France Inter, le 18-20, Fabienne Sintès.
Un jour dans le monde ce soir, c'est un jour dans l'Amérique de Paul Auster.
I think one of the reasons I live in New York is because I know my way around New York. I don't know my way around Paris.
Bonsoir François
don't
Bunel.
Don't know my way around.
Bonsoir Fabienne.
Merci beaucoup d'être avec nous. Est-ce que vous avez reconnu l'extrait de Brooklyn Boogie qu'on entend là, qui parle dans le film de Paul Auster? François, vous l'avez reconnu ou pas?
Harvey Keitel?
Non, Lou Reed. Il y avait presque une chance sur deux, Lou Reed qui parle de New York. Et c'est un peu ce qu'on veut essayer de faire avec vous, parler de l'Amérique de Paul Auster, symbolisé bien sûr par Brooklyn, mais qui ne s'y résume pas. On a évidemment pensé à vous tout de suite dans Un jour dans le monde, parce que vous le connaissiez, parce que vous l'avez beaucoup interviewé, parce que vous étiez amis, parce que le Brownstone de Park Slope, vous le connaissez. Et d'ailleurs, et avant de se lancer, on a tous en tête, François Bunel, ce petit message vidéo qu'il vous a laissé à la dernière de la Grande Librairie, et ça compte.
Oui, c'était Paul, la générosité incarnée, le souvenir aussi, l'idée que les hasards de la vie, on va peut-être y revenir puisque c'est l'écrivain du hasard, les hasards de la vie devaient être acceptés et vous emmener ailleurs. C'est quand j'ai annoncé à Paul que j'allais arrêter la Grande Librairie pour me consacrer à une vie nouvelle, de faire du cinéma, cinéaste. Il a été immédiatement d'un soutien sans faille en me disant « mais tu as raison, il faut le faire maintenant, va où le désir te porte ». Ça résume son œuvre, ça résume sa vie, puis je crois aussi la manière dont il résonne en chacun de nous, les lecteurs aussi.
Il a adoré être, puisqu'on est là, le cinéaste qu'il a été sur Brooklyn Boogie, sur Smoke. Qu'est-ce que ça a changé selon vous, pour vous? Pourquoi c'était important que ce Brooklyn-là et ce New York qu'il racontait déjà à travers ses livres, il fallait un moment en donner une autre couleur, hein?
Oui, c'est vrai. Alors, c'est amusant parce que les hasards font bien la chose. En réalité, on le sait peu, mais Paul racontait souvent qu'au départ, son envie n'était pas forcément d'être écrivain, c'était d'être metteur en scène. Ouais. Quand il était jeune, il voulait devenir cinéaste. Et puis, c'était très compliqué. Il fallait, notamment en France, remplir tout un tas de formulaires administratifs pour intégrer l'IDEC, l'ancêtre de la FEMIS. Et il avait renoncé, heureusement pour nous d'ailleurs, parce qu'il est devenu le grand romancier qu'il restera. Mais ce désir de mise en scène avait toujours existé. Et puis, quand il avait écrit pour, je crois, le New York Times, à la fin des années 90, un conte de Noël, c'est Wayne Wang qui l'avait appelé en lui disant « Ah, mais on pourra en faire une adaptation, mais j'ai besoin de vous. » Puis ensuite, il avait écrit un scénario pour Wim Wenders, dont il était proche. Et c'est Wim Wenders qui lui a dit « Non, mais écoute, fais-le toi, réalise-le. » Et vous voyez, finalement, il y avait quelque part ce désir de réalisation de cinéma chez Paul qui était très présent, mais peut-être aussi parce que c'est un écrivain américain, mais c'est aussi un écrivain new-yorkais. Mm-hmm. Céline Curiol connaît parfaitement la différence, elle vous la racontera mieux que moi, mais je crois que New York, c'est la ville sur laquelle il est le plus difficile d'écrire, car on n'écrit que des clichés, et c'est la ville la plus difficile à filmer, car on n'y filme que des clichés. Or, Paul Auster, c'est le grand écrivain qui a pris les clichés et qui a su les détourner et en faire des mythes, des mythologies, comme disait Barthes. Vous savez, les petites mythologies quotidiennes, les grandes tours, la cité de verre, les promenades interminables dans une ville qui vous perd et quelque part qui vous libère. Ça, Paul Auster savait le raconter dans ses livres. Je crois qu'à un moment, il s'est dit, on peut aussi le filmer, on peut aussi le mettre en image de façon différente. Et c'est des images qui restent, pour tous ceux qui ont vu les films, c'est des images qui restent parce que c'est un New York mythologique qu'il a imprimé sur la pellicule.
La petite boutique Smoke, que c'est la tête de Jim Jarmusch, c'est plein de choses comme ça qu'on peut avoir en tête. Et vous m'y amenez vraiment, François Bunel, merci beaucoup, parce que ce qui nous intéresse, effectivement, c'est tel que Paul Auster voyait l'Amérique. Et c'est vrai, vous l'avez dit, qu'il n'a jamais quitté Brooklyn, en tout cas pour y habiter, jamais quitté Park Slope, mais on a l'impression que ça implique qu'il vivait dans une espèce de bulle fermée, sans regard pour son pays. En réalité, c'est exactement l'inverse.
Oui, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que c'est le piéton de New York. Il a longtemps vécu à Manhattan avant d'aller franchir le pont et franchir le pont de Brooklyn. Vous savez que pour un New Yorkais de Manhattan, c'est l'équivalent de prendre un bateau et d'aller en Europe. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est vraiment le bout du monde. Mais il faut pas oublier que c'est un vrai New Yorkais. C'est-à-dire qu'il a longtemps vécu dans des petits basements ou dans des tout petits appartements dans le Nord, l'Upper West Side, Morningside Heights, par exemple. Et puis ensuite, il a vécu à Chinatown, et puis ensuite à Tribeca. Il le raconte dans quelques-uns de ses livres autobiographiques. À chaque fois, dans ce New York qui était en pleine évolution et en décalage. C'est-à-dire qu'il a vécu le New York hyper dangereux des années 80. Mm-hmm. Et puis ensuite, ce New York qui se gentrifiait des années 90, c'est-à-dire celui aussi de la mondialisation des années Reagan. Il a beaucoup écrit sur l'Amérique hippie à travers New York dans les années 70, l'Amérique des traders à travers ce New York des années 80. Il avait, je crois, eu, comme beaucoup de New-Yorkais, un choc qui l'a conduit à ne pas écrire pendant 2-3 ans, en tout cas pas de fiction, après le 11 septembre. Mmh. Et on attendait tous le grand livre de Paul Auster sur le 11 septembre.
Et Brooklyn Follies.
Un peu tardivement. Ouais, mais vous savez, il a fallu 7, 8, 10 ans pour qu'il écrive dessus.
Et encore, Brooklyn Follies, d'ailleurs, c'est une sorte d'hommage à l'aube du 11 septembre. On n'est pas dans le pur récit. Dans Sunset Park, en revanche, on est dans la vraie toile de fond de la crise de 2008. Je me demandais jusqu'à quel point, selon vous, les crises, même les crises politiques de l'Amérique, étaient la toile de fond de ces livres.
J'ai envie de dire presque total, parce que ce qui intéressait Paul Auster, ce qui l'intéresse dans ses livres, c'est la crise. C'est-à-dire que c'est l'écrivain qui a réussi à tisser, à tresser les fils de la grande histoire avec ceux de la vie intérieure des personnages. Or, la grande histoire, vous le savez mieux que moi, Fabienne, vous n'en parlez sur cette antenne, et nous n'en parlons au bistrot, entre amis, que quand il y a une crise. Et dans la vie intérieure des personnages, ce qui compte, c'est nos moments de crise. Crise d'angoisse, crise de panique, crise amoureuse, crise de doute. Et Paul Auster raconte l'histoire de personnages qui sont souvent des marginaux. Moi, je lui disais, tu racontes l'aristocratie des déchus. Des types qui, des hommes, des femmes qui sont des voyageurs sans bagages, qui crapahutent vers nulle part, qui sont aux prises avec des mystères sans solution, et toujours à des moments clés de l'histoire, des moments de bascule, le 11 septembre, le Vietnam, vous voyez, le moment où Nixon ment, c'était la toile de fond de Moon Palace, par exemple. C'est ça qu'il a su merveilleusement faire, montrer comment les Américains vivaient quand ils étaient englués dans les rouages d'événements qui les dépassaient complètement.
Et sans boussole, en fait. Moi, j'ai le sentiment que ce qu'il décrit, et peut-être surtout vers la fin d'ailleurs, c'est une Amérique qui cherche sa boussole, qui cherche à comprendre qui elle est et où elle va. La raison pour laquelle je vous pose cette question, c'est que la dernière interview de vous que j'ai lue à son sujet, c'était à l'époque dans America, donc on est au début de Trump, c'est après la sortie de 4-3-2-1, et on le sent sonner. En fait,
totalement
fatigué de ce qu'il voit, et lui aussi, là, pour le coup, sans boussole pour comprendre ce qui est en train de se passer chez lui.
Oui, parce qu'il faut quand même rappeler que c'était une surprise pour tout le monde. Aujourd'hui, on connaît la fin de l'histoire, en tout cas la fin de cette histoire-là, de ce moment, de cette décennie, mais il faut quand même rappeler qu'en 2016, l'arrivée au pouvoir de Donald Trump a été une immense surprise pour les New-Yorkais notamment. Personne ne voulait y croire, personne n'envisageait que ce scénario puisse être possible, et tous les écrivains avaient bien compris une chose, c'est que si ça se produisait, ce qui allait arriver serait le dérèglement justement de la boussole, alors à la fois la boussole éthique, la boussole morale, mais aussi la boussole, vous savez, le fameux aimant qui permet de voir le Nord, de garder le Nord, qui fait que les flèches vont s'agiter dans tous les sens, mais vous ne savez plus dans quelle direction aller, dans quelle direction vivre. Paul était un écrivain finalement assez engagé. C'est-à-dire que je ne crois pas que l'œuvre soit engagée tant que ça, même si, comme je vous le disais, ça se passe tout le temps sous un... très souvent, en tout cas.
Mais on a compris, il est en prise politique avec l'Amérique, c'est ça que vous dites, François Bunel. Avant qu'on rejoigne Céline Curiel, j'aimerais vous faire sourire un petit peu. Je voudrais vous faire écouter ceci. Vous savez ce que c'est? C'est un extrait de commentaire des Giants de New York avec le fameux Willie Mays qui avait tellement marqué cette époque. C'est l'époque où Auster est fou de baseball. Il l'était toujours, mais tout petit. Vous connaissez l'anecdote de l'autographe en 1955?
Oui, oui, évidemment, il l'a raconté parce que c'est ce qui a permis effectivement à Paul Auster de devenir écrivain. Et je pense que tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui et qui rêvent de faire quelque chose autour de l'écriture vont faire la même chose. C'est-à-dire, quand vous êtes face à votre idole, ouais, le meilleur outfielder de l'histoire des États-Unis, hein, Willie Mays, et que vous lui demandez un autographe, il vous dit, mais bien sûr, fiston,
donne-moi un stylo.
Un crayon. Ah non, t'as pas de crayon, pas de stylo. Pas d'autographe. Voilà. Et depuis ce jour, Paul aimait raconter cette anecdote. Depuis ce jour, il a toujours un stylo au cas où. Mm. Vous voyez, mais là encore, on revient au hasard, le grand thème austérien. Voilà, le hasard fait qu'il est un jour mis devant son idole et manque le hasard, il n'a pas de stylo. Désormais, pour vaincre le hasard, pour
il
préparer le hasard,
un stylo.
Ayez toujours avec vous ce dont vous avez besoin pour vivre.
Restez avec nous, François Bunel. Merci beaucoup. Céline Curiel, bonsoir.
Bonsoir.
On voulait vraiment vous parler, Céline, et voyez, on était en train de parler de hasard. La raison pour laquelle on voulait vous parler, c'est que vous vous connaissiez bien aussi, vous avez écrit ensemble avec Paul Auster, vous allez nous le raconter. Il a aimé votre premier livre, il vous l'a dit et il l'a fait savoir. Est-ce que là aussi c'est une affaire de hasard en fait ? Comment ça se passe entre vous et lui au début ?
Bien sûr, c'est extrêmement une affaire de hasard. Moi, je suis une jeune fille qui débarque à New York et je rêve de devenir écrivaine et j'ai une grande admiration pour Paul. Et puis, la coïncidence fait qu'à un moment donné, je le rencontre au moment où on lui remet le fait chevalier des arts et des lettres, le gouvernement français, et puis on se rencontre comme ça et on commence à discuter et il est tellement accueillant, tellement sympathique, tellement généreux. Moi, je ne peux pas croire que quelqu'un d'aussi célèbre dans sa position peut avoir cette générosité.
François Bunel, tout à l'heure, disait il y a l'écrivain new-yorkais et il y a l'écrivain américain. Où est-ce que vous le mettez ? Dans quelle case vous le mettez, vous, le Paul Auster que vous connaissez ?
Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit François. C'est vrai que par rapport à New York, Paul, il était profondément new-yorkais. Je me rappelle quand George Bush a été élu, il me disait, enfin le deuxième George Bush, il me disait, mais il faut qu'on fasse sécession, il faut que New York devienne un État indépendant. On peut pas rester faire partie des États-Unis.
Mais donc, il l'a quasiment écrit vraiment, d'ailleurs, la sécession de New York.
Ouais, absolument. Et donc New York, c'était pas les États-Unis non plus pour lui. C'était un endroit particulier. Mais je crois vraiment, enfin, peut-être ce mot il est un peu chargé de nos jours de façon particulière, mais je pense que c'était un écrivain universel. Enfin, moi j'ai vu souvent des gens venir à ses lectures, à ses signatures, de toute nationalité, de toutes origines, et qui avaient été touchés par ce qu'il avait lu, et je crois qu'il avait vraiment cette puissance dans son écriture qui faisait que c'était transversal en fait. C'était ni américain, ni français, ni new-yorkais, c'était humain en fait.
Et parfois douloureux, je l'ai entendu dire cette phrase ou lire, il disait « écrire c'est comme si on m'arrachait une dent tous les jours ». Il vous l'a dit ça ? Il vous a parlé de cette difficulté-là ou pas ? Et quand vous étiez tous les deux, vous avez écrit un scénario ensemble. Est-ce que vous l'avez senti cette difficulté parfois à l'écriture ou pas ?
Alors, quand on travaillait ensemble, non, parce que c'était plutôt joyeux, enfin même très joyeux, ouais. Et puis c'était un scénario, donc c'était peut-être une forme différente. Mais je pense que quiconque s'est essayé à l'écriture romanesque, c'est surtout qu'il disait que c'était un effort physique. Mmh. Et c'est vrai, parce qu'on a l'image de l'écrivain qui est assis à son bureau, voilà, qui est très intellectuel. Mais je pense que il y avait cette... Pour lui, c'était très fatigant. Et c'est vrai, parce que chaque fois qu'on écrit un livre, on réinvente un univers, il faut inventer les moyens. Il n'y a pas de méthode, en fait. Donc, chaque fois, il faut tout réinventer. Je pense que c'est ce qu'il voulait dire, dans le sens que c'était fatigant à cause de cela.
Vous qui l'admiriez et qui le lui avez dit, quand vous vous retrouvez à côté de lui, devant le même ordinateur, on en parlera de ce fameux ordinateur, à écrire, enfin, pour n'importe qui d'autre, ça peut être extrêmement paralysant d'être obligé d'écrire en même temps que Paul Auster et donc que l'écriture de chacun soit confrontée. Ça vous a jamais paralysé ? Au contraire, ça vous a emporté, galvanisé, Céline Curiel ? Moi, ça m'aurait terrorisé.
Au départ, ça me paraissait quelque chose en même temps d'extraordinaire et en même temps de très, très impressionnant. Mais ce qui était fantastique avec Paul, et François l'a peut-être un peu dit aussi, c'est qu'il n'y avait pas de hiérarchie, en fait. Il n'y avait pas de... C'était pas moi, le grand écrivain, je vais t'expliquer à toi, la petite jeune qui arrive, comment on écrit. C'était vraiment un dialogue, en fait, entre deux rives, quoi.
Vous racontez, Céline Kerol, vous l'avez raconté, ça m'a fait beaucoup rire dans le Nouvel Obs, il n'y a pas si longtemps. Il était donc avec son stylo, le fameux stylo dont parlait François Bunel, il a fini par dire un jour quand même, il faut que j'achète un ordinateur. Et c'est vous qui tapiez sur cet ordinateur, qu'est-ce qu'il est devenu ?
Ah, l'ordinateur, je pense qu'il l'a donné à quelqu'un, parce qu'il n'aimait pas du tout...
Ah, mais je croyais qu'il vous l'avait donné à vous, et que vous étiez partie avec.
Non, je ne suis pas partie avec. Je pense qu'il l'a donné à... Je ne sais pas à qui il l'a donné, je ne me rappelle plus, mais c'est vrai qu'il était tellement attaché à sa machine à écrire, et l'ordinateur, ça lui paraissait quelque chose de... Enfin, il me disait, c'est trop mou, quoi. Enfin, ouais. Les touches, il y avait quelque chose dans le fait d'écrire aussi sur la machine qui était, oui, physique, et qu'il aimait bien, je pense, dans cette résistance aussi, quand on tape.
Bonne vieille Olympia, avec deux doigts, rien de plus facile. Céline Kerol, merci vraiment mille fois. François Bunel, puisque vous êtes resté avec nous, je voudrais vous faire écouter une petite chose. C'est chez vous, ça se passe chez vous, c'était en 2013.
I don't want to make theories.
Je veux pas créer des théories.
I'm not a philosopher.
Je ne suis pas philosophe.
I think I'm a thinker.
Je réfléchis. Je suis quelqu'un qui réfléchit. J'ai lu beaucoup de philosophie.
But I don't want to write books.
Je ne veux pas d'écrire de livres de philo.
I want to talk about.
Je veux parler.
Again and again, I want to say this.
Encore et encore, je veux le redire.
What it feels like to be alive.
Qu'est-ce que c'est d'être. Comment. À quoi ça sent. À quoi ça ressemble d'être vivant.
I think that's been my mission as
a
writer.
Je crois que c'est ma mission en tant qu'écrivain.
More than anything else.
Plus que toute autre chose.
It's so strange to be alive.
C'est tellement étrange que d'être vivant.
And it's so wonderful.
Et c'est tellement merveilleux.
And sometimes so horrible.
Et parfois tellement horrible.
That I want to capture all this.
Je veux capturer tous ces moments-là.
François Bunel, rapidement, dans la fin de l'interview qu'il vous avait donnée dans le grand entretien, il dit à peu près la même chose. Et vous lui dites, il dit « je goûte le plaisir d'être en vie » comme il le dit là. Est-ce que vous savez pourquoi ? Et il vous répond « parce que je sais que ça va s'arrêter ». Et vous lui demandez « est-ce que ça vous fait peur ?» Il dit « non, plus maintenant ». C'est une belle conclusion.
Oui. Oui, c'est aussi sa force, c'est-à-dire que Paul a écrit des livres merveilleux sur la vie, mais qui racontent l'histoire d'hommes et de femmes cernés par la mort. C'est-à-dire que le paradoxe, et je crois que c'est pour ça que les gens l'aimaient tant, lire Paul Auster, c'est se retrouver. Céline a raison, c'est ce qui est universel chez Paul Auster, c'est qu'il raconte des gens qui n'ont pas réussi à faire leur deuil d'un père, d'une mère, d'une femme, d'un amant, et qui vivent malgré tout, et qui découvrent que la vie peut être belle malgré la mort qui a frappé. Vous vous rendez compte ? Et je crois qu'il lui a fallu effectivement peut-être 77 ans pour ne plus en avoir peur.
À nous tous de lire et relire Paul Auster désormais. François Bunel, je vous remercie vraiment mille fois de ce passage chez nous. Merci à vous aussi Céline Kerol, merci vraiment à vous deux.
Le 18-20, Fabienne Synthès. Sur France Inter.
La suite ce soir, ça se passe en Colombie, dans Un jour dans le monde, où le président Petro veut renoncer à son pétrole pour le renouvelable. Pour aller jusqu'à 19h, Kevin Dufraîche sous les radars.
En Inde, des milliers d'élèves évacués après des alertes à la bombe dans les écoles.
Et le monde à 18h50, c'est vous Franck Madvon. Bonsoir Franck.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous. L'américain Anthony Blinken termine une tournée au Moyen-Orient. Le fossé se creuse entre les États-Unis et les pays arabes.
Et Corinne Pellissier qui tombe à pic. Bonjour Corinne.
Bonjour, un peu de légèreté aujourd'hui, on révise les meilleures cascades de Colt Sivers, l'homme qui tombe à pic, la série des années 80, adaptée au cinéma avec Ryan Gosling.
Allez, à tout de suite tout le monde, le tour de la planète continue. Il fait un détour avec Bess Gibbons, Floating on the Moment. C'est un extrait du premier album solo de la chanteuse du groupe Portishead. Elle sera en concert à Paris, ce sera le 27 mai et le 31 à Lyon. Voilà, vous savez tout. Left behind. Nous sommes en Colombie, qui pourrait devenir le premier pays producteur de pétrole à renoncer à ses exportations et à tout projet d'exploitation de combustibles fossiles. Le président de gauche, Gustavo Petro, a annoncé l'an dernier qu'aucun nouveau contrat ne serait signé. Il veut ainsi lutter contre le réchauffement climatique et aussi se diriger vers les énergies renouvelables. Nous sommes ici dans la région de Casanare, c'est une zone de forte exploitation pétrolière où la transition a commencé depuis bien longtemps. Le reste, c'est Najed Benrabah qui raconte.
Après plus de 4 heures de route depuis la ville de Yopal, nous sommes entourés de plaines de la savane inondable du Casanare. Tout est plat à perte de vue. Il y a très peu d'arbres. Assis à l'arrière d'une jeep sur un banc, nous traversons la réserve de Hato de Aurora avec Santiago Barragán. Notre guide est aussi le fils du propriétaire de la réserve.
Alors nous allons dans les marais, les lagunes. Nous cherchons les oiseaux, l'anaconda géant. Nous cherchons le crocodile. Nous allons dans les zones où nous avons déjà pu observer un jaguar et nous l'attendons. En clair, nous passons toute la journée dehors. On fait des allers-retours dans la réserve. C'est un autre type de tourisme. Ce que nous voulons, au fond, et de tout notre cœur, c'est montrer à tous les gens qui viennent ici qu'il existe des activités économiques, qu'il y a un moyen de faire de l'argent tout en prenant soin de la planète, tout en étant en symbiose avec la nature.
Cette réserve a été fondée il y a 24 ans. Au cours des premières années, la famille Barragán organisait seulement 3 safaris par mois. Aujourd'hui, un millier de touristes viennent visiter la réserve chaque année, jusqu'à 30 personnes en même temps.
Toute notre activité économique tend vers la conservation. Nous essayons d'éliminer l'utilisation de plastique autant que possible parce que le plastique utilise beaucoup de pétrole et beaucoup de gaz. Et bien que ce soit difficile pour nous, pour l'instant, parce que nos voitures utilisent encore de l'essence, nous essayons de réduire cela. Par exemple, l'électricité provient de panneaux solaires.
La région du Casanare compte plus de 100 réserves naturelles. Pour les autorités, le tourisme de nature représente donc une nouvelle opportunité financière, car pour l'instant, c'est l'exploitation pétrolière qui fait tourner l'économie locale. Pour s'en rendre compte, il suffit d'aller à Trinidad. Première ville de la région à avoir accueilli une compagnie pétrolière dans les années 80. De nos jours, au niveau national, les exportations dans la Colombie représentent 800 000 barils de brut par jour. Et cela pour un pays grand comme 2 fois la France et peuplé de 50 millions d'habitants. Ricardo Arevalo Rios a travaillé dans ce secteur.
Il y a environ 36 ans, j'ai vu le premier puits de pétrole de la région. À cette époque, il n'y avait aucun contrôle. Le tout premier puits de pétrole que j'ai vu s'appelait la Flora, Flora 1. Et avec mes collègues, on marchait pieds nus dans le pétrole. On en avait jusqu'aux chevilles. Ensuite, il y avait les explorations dites sismiques. Et c'est très nocif pour l'environnement. Ces eaux s'enterrent plus profondément dans la terre parce que les explosions détruisent les couches et les flux de l'eau qui doivent remonter à la surface. C'est pour ça que nous voyons maintenant tant de sécheresses dans les plaines. L'eau n'est plus accessible. Les animaux sauvages, à cette époque, mouraient beaucoup. Ces eaux polluées avec des produits chimiques les tuaient. Et c'est encore le cas, même maintenant.
Dans la région, les manifestations sont régulières. Celles des agriculteurs qui réclament un travail et celles des habitants qui dénoncent l'impact sur l'environnement. Parmi les manifestants, il y avait le député de la région, Alejandro López, qu'on retrouve à Paz de Aripuro, la ville voisine.
Indubitablement, l'industrie pétrolière a permis le développement de l'économie locale. L'apport le plus important et significatif a été la construction de routes. La loi est très laxiste. En théorie, elle oblige les entreprises à verser ou compenser financièrement les communautés locales, mais rien n'encadre l'exécution de cette loi. Elle doit être appliquée de manière volontaire.
Pour le député du Casanare, Alejandro López, la diversification des activités peut changer la donne.
Le tourisme se développe, il est en hausse et c'est l'un des secteurs que nous allons renforcer. Nous devons améliorer le service et toute la chaîne hôtelière pour que le touriste puisse venir profiter de cette nature si riche. Si nous diversifions notre économie, nous ne dépendrons pas des revenus pétroliers directs et indirects.
Actuellement, la Colombie dispose d'environ 18 années de réserves pétrolières, soit plus de 2,3 milliards de barils. Pour le moment, le tourisme représente près de 7 milliards d'euros contre plus de 30 milliards pour l'exploitation d'hydrocarbures.
Najed Benrabah pour le reportage, merci beaucoup. L'actualité internationale, quand elle passe sous les radars, est rattrapée au vol par Kevin Dufraîche. C'est d'abord au Canada que vous nous emmenez, Kevin, avec un député expulsé.
Et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit du chef de l'opposition, le conservateur Pierre Poilievre, favori des sondages à un an des élections fédérales. Hier, lors des questions au gouvernement, le débat se tend avec le Premier ministre libéral Justin Trudeau. Pierre Poilievre lui reproche le lancement d'une expérimentation en Colombie-Britannique pour décriminaliser la possession de petites quantités de drogue dure comme la cocaïne.
When will we put an end to this wacko policy by this wacko prime minister?
Quand va-t-on mettre fin à cette politique cinglée par ce Premier ministre cinglé? Voilà les mots prononcés en pleine séance. Le président de la Chambre demande alors à Pierre Poilievre de s'excuser à plusieurs reprises, ce qu'il refuse. « Je vous ordonne de quitter la Chambre », dit alors le speaker, ce qu'il a fait suivi de députés de son groupe, dénonçant ensuite sur X une censure. Les réseaux sociaux où les conservateurs reprennent depuis hier le terme « wacko », cinglé en anglais.
Over 100 schools.
Et nous sommes en Inde où les écoles ont été victimes de fausses alertes à la bombe.
Oui, exactement la même méthode utilisée il y a quelques mois en France. Des mails malveillants adressés aux établissements scolaires tôt ce matin. Environ une centaine d'écoles ont été touchées dans la capitale Delhi. Des milliers d'élèves ont dû être évacués. Les télévisions indiennes montrent les opérations de vérification menées par la police à l'aide de chiens notamment. La police et le ministère indien de l'Intérieur qui ont très vite appelé à ne pas paniquer qu'il s'agissait bien de canulars. D'après des sources policières citées par plusieurs médias indiens, les mails auraient été envoyés via des noms de domaines russes.
Et puis nous sommes au Brésil qui rend hommage à une légende 30 ans jour pour jour après sa mort.
Ayrton Senna et cette image qui a marqué le monde entier, la Williams du pilote brésilien pulvérisée sur la piste du Grand Prix de Formule 1 d'Imola après s'être écrasé à 300 km/h contre les barrières. Cette image où le visage toujours enfantin de Senna sont à la une de quasi tous les sites d'information ce soir au Brésil. Ici l'accident recréé en 3D seconde par seconde pour l'expliquer, là une interview du médecin qui a tenté de sauver l'icône. Comme chaque année, des fans se rendent sur sa tombe en ce moment à Sao Paulo et une exposition ouvre ses portes aujourd'hui à Rio. C'est la voix du pilote recréée par intelligence artificielle qui raconte les moments forts de sa carrière. Il faut dire qu'Ayrton Senna n'a guère d'égal que Pelé dans le cœur des Brésiliens. Un héros, trois fois champion du monde de Formule 1 à une époque où le Brésil sortait de la dictature militaire et se trouvait dans une situation économique très compliquée.
Kevin Dufraîche, je vous parle en repassant par le Canada, Kevin, avec Martha and the Muffins, Echo Beach, ils sont de Toronto. La chanson date de 80 et ça parle d'un type qui pense à une plage idéale. and the Muffins sur France Inter, Echo Beach. Le Monde à 18h50, c'est Franck Manfon.
Fabienne Saint-Esse. Le 18-20.
Franck, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken était en Israël aujourd'hui. Et ce soir, vous nous expliquez pourquoi cette nouvelle tournée du secrétaire d'État américain au Moyen-Orient permet de mesurer le fossé grandissant entre les États-Unis et les pays arabes.
D'abord, les États-Unis semblent impuissants dans leur rôle de médiateur. Les négociations entre Israël et le Hamas piétinent, c'est assez clair ce soir, et Washington renvoie la responsabilité de cet échec au mouvement palestinien. D'après Joe Biden, le Hamas serait désormais le seul obstacle à la conclusion d'un accord, alors qu'Israël a fait des concessions en acceptant la libération de 33 otages au lieu de 40. Voilà en tout cas la version américaine. Mais les pays arabes, eux, constatent qu'Israël maintient son projet d'une intervention au sol à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, et ne veut pas retirer ses troupes du territoire, comme le réclame le Hamas. Après plus de 200 jours de combat et 35 000 morts, le mouvement islamiste exige l'arrêt des hostilités.
Et Washington ne parvient pas à obtenir d'Israël la fin des combats.
Les États-Unis haussent le ton, mais concrètement, rien ne change. On le disait, le Premier ministre israélien Netanyahou a répété hier que l'armée entrera à Rafah, quoi qu'il advienne, accord ou non, et ce sont des armes essentiellement fournies par les Américains qui tuent à Gaza. Résultat, le secrétaire d'État, Anthony Blinken, a été acclamé ce matin à Tel Aviv. Merci Biden, merci Blinken. Voilà ce qu'ont scandé des manifestants devant son hôtel. Plus que jamais, les États-Unis font figure de meilleurs alliés d'Israël, ce qui les rend très impopulaires dans un monde arabe indigné par le bain de sang à Gaza.
La diplomatie américaine, Franck, devient donc moins influente dans les pays arabes.
Exemple, avant-hier, à Riyad, en Arabie Saoudite, réunion pour discuter du jour d'après à Gaza. Les pays arabes présents, Arabie Saoudite, Émirats, Qatar, Égypte, Jordanie, se sont montrés réticents à l'idée américaine d'une force arabe de maintien de la paix dans l'enclave. Ils sont désespérés, affirme un diplomate européen. Quiconque ira à Gaza pourra être perçu comme un ennemi, ajoute un ministre jordanien sur place. Autre symptôme, une diplomate américaine réputée, Ala Raritz, basée à Dubaï, vient de démissionner pour exprimer son désaccord avec la politique de son pays au Moyen-Orient. Une politique qui provoque à ses yeux un cycle de vengeance, elle le dit dans une interview au Washington Post. À cela s'ajoutent maintenant les images de violence dans les universités américaines, des manifestants pro-palestiniens délogés manu militari, hier à Columbia par exemple, par des policiers en tenue anti-émeute.
Alors est-ce que l'administration Biden est dans une impasse au Moyen-Orient ?
En tout cas, sa stratégie ne fonctionne pas. Elle s'appuie sur un pilier, la normalisation entre Israël et les pays arabes. Les démocrates ont repris en fait les idées de l'administration Trump, à savoir les accords d'Abraham, la paix entre Israël d'un côté et les Émirats et Bahreïn de l'autre. Prochain objectif, la normalisation avec l'Arabie Saoudite. Mais les Saoudiens font monter les enchères. Impossible aujourd'hui d'accepter la paix avec Israël sans de réelles avancées pour les Palestiniens. Avancées inimaginables avec l'actuel gouvernement israélien. Ça s'appelle une impasse. La rage toujours en Israël, le désespoir côté arabe, faute d'accord de trêve. Voilà le triste bilan de cette tournée de Blinken au Moyen-Orient.
Franck Madvon, à demain. Le cinéma en VO, c'est le mercredi. Et Corinne Pellissier tombe à pic.
France Inter. Un jour dans le monde. So, we start.
That's me, Colt Sievers. And this is my hero's journey.
Un gros plan aujourd'hui pour parler du blockbuster qui s'annonce. Gros plan sur le métier le plus cool d'Hollywood, si on en juge par le nombre de films qui mettent en scène en ce moment des cascadeurs. Il y a eu tout récemment Once Upon a Time in Hollywood avec Brad Pitt en doublure de DiCaprio. Et cette semaine, c'est donc un célèbre personnage de série qui reprend du service, Colt Sievers, l'homme qui tombe à pic, incarné par Ryan Gosling. On l'a entendu hier à 7h50. Gosling dans The Fall Guy, une version modernisée, déjantée, Corinne, tournée par un as du milieu de la cascade.
Ah, il a été longtemps la doublure de Brad Pitt dans Fight Club, Ocean's Eleven, Mr. and Mrs. Smith, David Leitch, le stuntman, comme on appelle les cascadeurs en anglais, devenu aujourd'hui réalisateur, Bullet Train, John Wick, un spin-off pour la saga Fast and Furious, et désormais l'adaptation de la série qui a donné la vocation à toute une génération de casse-cou acrobates. I might fall from a tall building, I might roll away.
L'homme qui tombe à pic, Cold Sivers, Lee Major, qui avait déjà bien des talents quand on l'a découvert dans cette série des années 80, diffusée chez Jacques Martin sur la 2. Chanteur à 16 heures, le générique c'est lui. Également chasseur de primes, roi de la cascade, le meilleur selon David Leitch. Même si évidemment les techniques depuis ont beaucoup évolué avec les effets numériques. The Fall Guy, l'américain l'a voulu bien sûr comme un divertissement et une véritable déclaration d'amour aussi à ce métier de cascadeur qui lui a tant apporté. Du coup, à peu près tout ce que vous allez voir à l'écran a été fait sans trucage, pour de vrai, avec des cascadeurs en feu, capables de sauter dans le vide, de s'éjecter d'une voiture lancée à 100 à l'heure, autrement dit, la base pour David Leitch.
Moi qui ai été cascadeur pendant 25 ans, je peux vous dire que les images de synthèse, c'est sûr, ont beaucoup apporté au métier et l'ont rendu moins dangereux. Associées à notre savoir-faire, elles ont permis d'accéder à tout un tas de cascades qui avaient jusqu'ici leurs limites, avec un rendu visuel encore plus dingue. Mais pour le film, j'ai voulu faire un grand bond en arrière et revenir à quelque chose de plus authentique, comme dans la série d'origine. De vraies cascades avec des comédiens qui se jettent d'un hélicoptère en marche ou s'éjectent d'une voiture pour atterrir à 60 mètres. Bien sûr, on aurait pu faire tout ça en images de synthèse, ça aurait beaucoup simplifié les choses. Mais j'avais le sentiment pour ce film qu'il ne fallait pas procéder comme ça. Quand vous êtes cascadeur, ce que vous voulez, c'est en mettre plein la vue au spectateur.
Et alors pour autant, Corinne, c'est pas un film d'action classique, toile froissée, gros biscotto, tout ça. L'action se déroule aujourd'hui et David Leitch a voulu son film ancré dans son époque.
Alors vous pouvez d'emblée oublier les filles en mini-short qui faisaient les yeux doux aux héros dans la série des années 80. En 2024, Cold Sivers est romantique. Il pleure en écoutant Taylor Swift et ne rêve que du grand amour avec la femme de ses rêves. Perdue de vue dans le film après une blessure, devenue aujourd'hui réalisatrice de longs métrages d'action, de science-fiction. Une fille que rien n'arrête, sûre d'elle, qui prend le pouvoir. Au casting, on retrouve Oppenheimer et Barbie réunis, Emily Blunt, Ryan Gosling, soit 10 millions de spectateurs potentiels pour la France, si on additionne leurs deux succès. On verra si The Fall Guy fait sauter le box-office. En tout cas, le résultat est jubilatoire. C'est un film loufoque, rempli d'humour, d'autodérision, qui se joue des codes, inverse les rôles, mélange les genres et transforme le héros culte de notre enfance en personnage bien ancré dans notre époque.
Évidemment qu'il fallait remettre l'histoire au goût du jour, la rendre plus moderne. Vous savez, c'est une série qui a inspiré beaucoup de monde dans le milieu de la cascade, des hommes, des femmes. Pour moi aussi, elle a beaucoup compté. J'étais tellement content de m'en emparer. J'ai toujours aimé le personnage de Cold Sivers, le héros modeste sur lequel on peut toujours compter et qui résout les crimes en utilisant ses compétences de cascadeur pour vaincre les méchants. Du coup, quand on nous a proposé de nous emparer de la série pour la réinventer au cinéma, ça m'a mis une grosse pression. Pour lui rendre justice, il fallait qu'elle soit enfin phase avec l'époque, sur le plan de la société, des références de pop culture.
Who doesn't love a twist? Allez, The Fall Guy, adapté au ciné, adaptation au ciné de l'homme qui tombe à pic, bien sûr, signé David Leitch. C'est au cinéma ce mercredi. Corinne Pellissier, grand merci. Le 18-20, la suite, c'est le journal de 19h avec Hélène Fillier, juste après le téléphone sonne. Bonsoir Philippe Lefébure.
Bonsoir à tous.
Et ce soir, c'est l'imagination au pouvoir, alors c'est celle des inventeurs.
La Foire de Paris a ouvert ses portes aujourd'hui. Avec elle commence le concours Lépine. On parle invention, on parle innovation. Ce soir, Rémi Parmail nous raconte son histoire. Mon employeur nous réclamait sans cesse des innovations de tout genre. Il nous notait même sur nos capacités de proposition. J'ai donc proposé un petit véhicule 3 roues électriques avec 4 articulés qui germait dans mon esprit depuis 20 ans. Mon employeur a repoussé ce projet au motif que les cyclomoteurs étaient trop accidentogènes. C'est ainsi que 4 ans plus tard, j'ai vu apparaître ces petits 3 roues utilisés par des facteurs pour la distribution du courrier. Je vous laisse peser l'amertume qui me submerge encore aujourd'hui.
Eh bien, dites-moi 01 45 24 7000 pour nous raconter vos inventions et le reste, celles qui marchent aussi, celles qui ont pu avoir un débouché technologique. On se retrouve dans un instant.
France Inter présente On ne plaisante pas avec l'humour.
La tournée des humoristes France Inter, c'est reparti. Oui, la fine fleur de l'humour du service public, celui qui vous met en joie chaque jour, is back. Oui, l'humour, tous les humours, même l'humour drôle.
On ne plaisante pas.